Le balado de FACNET, c'est quoi? C'est des experts qui vulgarisent, simplifient et rendent digestes les informations de facturation pour nos médecins. On vous sauve la lecture, on vous libère des infolettres, on vous accompagne dans votre facturation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, beaucoup de sujets au programme. Nous allons vous résumer l'amendement 194 et la lettre d'entente 388 pour les omnipraticiens. C'est parti! Bonjour, bienvenue au balado de facturation.net. Bien contente de vous avoir avec nous. Mon nom est Christina Campion, conseillère senior, et je suis accompagnée de Nicolas Bellemare, directeur du développement des affaires et de l'expertise.
Salut Christina, bien content d'être là matin.
Bien contente aussi. Nous sommes accompagnés également de la ravissante Élise Goyette, coordonnatrice. Comment ça va Élise?
Hey, salut Christina, moi aussi je suis vraiment contente d'être là.
Yeah! Donc, comme mentionné, on va parler de la lettre d'entente 388 et de l'amendement 194.
C'est gros. C'est gros. On a beaucoup de choses à parler.
C'est un sujet assez lourd. Donc, par où qu'on commence?
On va commencer à parler de la garde sur place.
C'est une bonne idée. Oui. Oui, parce que ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Puis, c'est une grosse innovation. Puis, c'est une mesure qui avait été demandée depuis très longtemps par les médecins urgentologues.
Oui, absolument. C'est sûr que ça touche uniquement, toutefois, les médecins qui sont désignés comme les deuxièmes médecins de nuit. Donc, c'est certain que si votre établissement n'est pas désigné, il va falloir adresser la chose au comité parteur. Ça va être important.
Donc finalement, c'est vraiment le fait quand deux médecins se partagent successivement la couverture de la période de garde de 0 à 8 heures que ça s'applique, Élise.
Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est dans les questions de remplacement. Si, exemple, un médecin doit quitter au milieu de son corps de nuit, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça permet d'avoir d'autres alternatives pour facturer.
Parce que si je comprends bien, maintenant, ou du moins avant, le médecin qui était de nuit devait obligatoirement faire un minuit à 8 heures.
Oui. Puis ça créait beaucoup de problèmes parce que on a vu apparaître des corps de garde de nuit qu'on appelle casino, par exemple. Donc, exemple que le médecin va commencer à 22 heures, finit à 4 heures du matin. Ou on voyait dans certains établissements un 21 heures jusqu'à 3 heures du matin, par exemple. Puis après ça, il y avait un collègue qui prenait la garde. C'est ça, il y avait un collègue qui prenait après ça la garde à 3 heures ou à 4 heures du matin. Donc, auparavant, le forfait de nuit pour le premier médecin, c'était réellement un bloc ferme de 0 à 8. Donc là, exemple, dans d'autres établissements, on avait, par exemple, une garde de nuit de 11 heures, de 23 heures à 7 heures le matin. Déjà, ça ne marchait pas avec le forfait de nuit qui était ferme. Là, c'est une grosse amélioration. Donc là, ça va permettre que même le premier médecin de nuit, on est capable de couper en deux puis de facturer finalement une moitié ou un montant X d'heures de nuit premier médecin. Puis le collègue qui remplace est capable de se faire payer encore pour le restant de la nuit, là.
Oui, en fait, Christina, il y a deux options actuellement. Donc, l'option 1, l'option initiale, le médecin 1 facture le forfait premier médecin de nuit, puis ensuite, le deuxième médecin facture le forfait deuxième médecin de nuit. La nouvelle option qui est possible actuellement, c'est que le médecin 1 facture de minuit à 3 heures avec le nouveau code de forfait 422-65 et le médecin 2 facture la période de 3 heures à 8 heures le matin avec le nouveau code de forfait également 422-65. Ça pourrait être aussi dans une option du corps de travail 23 heures à 4 heures du matin, que la portion minuit à 4 heures est utilisée aussi avec le nouveau code de forfait 422-65.
Qu'est-ce qu'il faut toujours se rappeler, Christina, c'est que c'est vraiment le fait de séparer le code, séparer le chiffre, le corps de garde du premier médecin de nuit, de le séparer en deux. Ça ne touche pas les situations exceptionnelles. Supposons qu'il y a un code orange, ça ne s'applique pas. Supposons, exemple, que le premier médecin de nuit est appelé pour faire un transfert en ambulance dans un autre centre, encore une fois, tout ça ne s'applique pas, là. T'sais, c'est vraiment le fait qu'on sépare le premier chiffre de garde en deux, tout simplement, que là, on va utiliser 4-2-6-6-5.
Et ça peut s'utiliser sur, mettons, un imprévu, puis également, si, exemple, c'est prévu à l'horaire de garde.
Absolument. Exemple au CHUM, si on prend l'exemple, il y a toujours deux médecins de nuit. Donc, le deuxième médecin de nuit, lui, va prendre les codes habituels. Donc, c'est uniquement là, le code 42665 ou le 42666, la fin de semaine et journée fériée. C'est uniquement lorsqu'on sépare le code de premier médecin de garde à l'urgence. Uniquement. OK? Ça, c'est important de se rappeler. Donc, il ne faut pas... se tromper, puis il ne faut pas mélanger ces codes-là, parce que rappelez-vous aussi, le problème qu'on va avoir, c'est que la RAMQ risque d'accepter ces codes-là, mais de revenir en arrière dans un an et demi, dans deux ans, comme on l'a vu dernièrement avec les retours sur les dépassements de deuxième médecin de nuit, là. On a été chanceux, la FMOQ a été capable de négocier des ajustements avec la RAMQ, mais il y a eu des dépassements, la RAMQ n'était pas capable de contrôler le nombre d'heures et ça aurait pu amener des coupures rétroactives monétaires importantes aux médecins urgentologues.
À ce moment-là, ça va être important de prendre entente entre les collègues pour justement éviter des refus de paiement rétroactifs.
Et la partie la plus importante aussi, ça va être de parler avec votre agence de facturation. Parce qu'on voit souvent dans certaines urgences qu'il va y avoir deux, trois ou quatre agences de facturation différentes. Puis s'il y en a une des trois ou une des quatre qui ne comprend pas ce concept-là, bien cette personne-là, malgré tout, va venir probablement briser la facturation de l'ensemble du groupe pour les nuits. Donc c'est vraiment important que c'est un concept qui soit bien compris et discuté en termes de réunion de services d'urgence et par la suite que la bonne information soit transmise à votre agence de facturation.
À noter que le nouveau forfait, en fait, est sous la même banque que le forfait de deuxième médecin de nuit.
Pour vrai?
Oui, absolument.
OK, mais ça, ça n'avait pas été expliqué puis ça n'avait pas été marqué du tout dans l'amendement, là.
Non, donc, absolument. C'est une précision qui a été demandée à la RAMQ qui nous a confirmé le tout.
Est-ce que la RAMQ a augmenté à ce moment-là la banque de second médecin de nuit?
Absolument.
La banque d'heures, OK.
Pour plusieurs milieux. Rétroactif au 1er janvier 2023.
OK, non, pas 2022.
Non,
OK,
exactement.
Donc 2023. Les clients sont mieux de communiquer avec nous pour qu'on soit capable de leur confirmer et de confirmer au chef de l'urgence le nombre de forfaits qui existent, le nombre d'heures de forfaits qui existent pour cette nouvelle mesure-là, pour le deuxième médecin de nuit aussi, là.
Oui, absolument.
Puis à ce moment-là, si on pense qu'il va manquer de forfaits, ça veut dire que le chef de l'urgence va devoir se tourner vers le comité paritaire pour faire ajuster le nombre d'heures de forfaits.
Exact.
L'autre nouveauté qui touche l'urgence, super intéressante, c'est pour les chefs de l'urgence. Donc, auparavant, on sait que dès qu'on était chef de l'urgence, on n'avait pas le droit de facturer les fameux codes 19883, 884, 5, 6 et 7. Là. Donc, toutes les activités médico-administratives, donc les réunions, par exemple, de la qualité de l'acte, les réunions du comité des plaintes, etc., etc. Donc, dès qu'on était chef, on n'avait pas le droit à ça. La nouveauté, donc rétroactivement au 1er juin 2022, c'est que non seulement je peux être chef de l'urgence ou par exemple, je pourrais être co-chef ou avoir une partie des forfaits parce que dans certains milieux, dans la même année, il peut y avoir à un moment donné trois médecins qui se partagent des forfaits de chef, mais maintenant, ça ne les coupe plus sur la possibilité de facturer les codes pour les activités médico-administratives à l'urgence. Donc ça, c'est une belle amélioration, là.
J'ai vu également qu'il y avait des changements pour les frais de kilométrage. C'est maintenant rendu à 1,09 si je me souviens bien.
Oui, exactement, à compter du 1er avril 2022.
Ça fait quand même une bonne différence. Je pense qu'on était à 97 sous.
91 sous.
91 sous avant. Ça fait quand même une bonne différence. C'est le fun.
Puis tu vois, c'est 93 sous du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Donc la régie va ajuster le tout automatiquement.
Donc, les médecins n'ont rien à faire. Par défaut, ça va être ajusté. Il y a une nouveauté aussi sur les formations continues, Christina. Qu'est-ce qui est nouveau, c'est que désormais, on peut se faire reconnaître jusqu'à 9 heures de formation par jour, donc 1,5 jours par congrès. Donc, autrement dit, maintenant, c'est 354,50 par bloc de 3 heures. On peut avoir une demi-journée, on peut avoir une journée, ou on pourrait même avoir 9 heures de formation dans la même journée, ce qui équivaudrait à 1,5 jours. L'autre chose aussi, c'est que désormais, c'est ouvert à tous les médecins de famille. Parce qu'avant, c'était, on devait être adhérent ou réputé adhérent aux AMP, donc réputé adhérent, par exemple, avec 15 ans et plus de pratique. Maintenant, c'est vraiment ouvert à l'ensemble des médecins de famille au Québec. Bien entendu, qu'est-ce que je viens de dire, ça ne touche pas les médecins qui sont assujettis au programme de ressourcement en région éloignée. Donc, autrement dit, par exemple, si vous êtes à Gaspé, si vous êtes à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or, ce que j'ai dit, ça ne vous touche pas. Vous avez déjà votre propre programme de ressourcement. Christina, il y a une grosse nouveauté pour les groupes de médecins de famille. Ça, c'était vraiment quelque chose. C'est une situation qui causait des problématiques pour les médecins, par exemple, qui allaient faire du sans-rendez-vous. Donc, par exemple, moi, je suis urgentologue, je m'en allais faire du sans-rendez-vous dans un GMF. Puis, le problème qu'on avait, c'était que j'avais pas de patients inscrits localement, physiquement, dans ce groupe de médecins de famille-là, ce qui faisait en sorte qu'auparavant, je n'avais pas le droit à aucune prime de vulnérabilité. Donc, peu importe le type de patient que je voyais, bien, le patient était toujours payé la même chose. Alors que là, désormais, même si on n'est pas membre du groupe de médecins de famille, mais que je participe aux services médicaux rendus à sans rendez-vous, je vais être désormais considéré comme faisant partie du groupe de médecins. Ce faisant, ça va me permettre d'avoir droit à ce moment-là à la tarification bonifiée pour la patientèle vulnérable, ce qui est une excellente nouvelle. La seule chose qu'il faut se rappeler, ça ne me permettra pas de facturer le tarif horaire, par exemple le 72-101, les activités de fonctionnement en GMF, ou les activités cliniques 72-103. Donc, bien entendu, ça ne me donne pas droit à ça, mais comme je vous dis, ça va permettre au moins que lorsque je vais voir un patient vulnérable au sans-rendez-vous, je vais avoir le droit d'être payé au tarif des vulnérables.
Très important, toutefois, il faut que votre nom apparaisse sur le formulaire de consentement à la pratique de groupe.
Donc, autrement dit, ça va être important de parler avec le chef du GMF. C'est vraiment un formulaire qui est souvent oublié, hein? Donc, il faut absolument que le formulaire soit rempli. Donc, Nicolas Bellemare, urgentologue, par exemple, à l'hôpital Enfant-Jésus, s'en va au GMF Ma Clinique. Là, à ce moment-là, ça va être important que la chef du GMF Ma Clinique remplisse le fameux formulaire pour la pratique de groupe et envoie ça à la RAMQ.
Oui, c'est le formulaire 4060 à ce moment-là. Et c'est à partir du moment où il est traité que là, vous allez pouvoir charger vos services rétroactifs au 1er janvier 2022. Christina, nous avons aussi une nouveauté concernant le dossier médical électronique, le DME. En fait, on peut dorénavant le facturer dans des contextes de GMF mix. Donc, en fait, c'est quoi un GMF mix? C'est un GMF qui regroupe dorénavant, oui, des cliniques, qui sont des cabinets, mais aussi ça peut être des CLSC ou des GMFU. Donc ça, c'est une nouveauté, en fait, là, qui est depuis le 1er avril 2021, rétroactif. Puis, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour facturer votre forfait DME, vous devez quand même avoir minimalement 150 patients inscrits et payer des frais de bureau. Donc, même si votre CLSC se retrouve dans le GMF mix, vous ne pourrez pas vous prévaloir du forfait DME si vous ne payez toujours pas des frais de bureau dans ce contexte-là.
Autrement dit, c'est pas un cadeau que la RAMQ donne de 459,90 aux trois mois, là. Ça prend réellement le fait que, oui, exemple, vous faites partie d'un GMF, donc moi, par exemple, je pourrais pratiquer en CLSC, mais si, bien entendu, le CLSC paye tous les frais reliés au DME, les frais de bureau, la secrétaire, etc., etc., bien, à ce moment-là, je ne pourrais pas me prévaloir du fameux forfait de 459,90 à chaque trimestre.
En gros, c'est un remboursement de tes frais de cabinet.
Comment dire, c'est un revenu, mais il y a des dépenses qui vont avec ça, là.
Et un petit rappel également de ne pas oublier de facturer vos téléconsultations au niveau des conseils numériques. Donc, en fait, vous en avez deux types. Donc, qui est le cas, en fait, 15,895 vous donnant 29 et 30. Et ça, c'est important aussi de savoir que même si vous avez moins de 500 patients inscrits, vous pouvez le facturer en fait sans problème. Donc, pour ce faire, en fait, il faut indiquer le nom du médecin qui a répondu à votre demande. Mais c'est facturer la date, en fait, à laquelle vous faites la consultation. Mais il faut attendre avant de l'envoyer, en fait, à facturer parce que vous devez avoir le nom du médecin qui va répondre à votre demande.
Ça donne un montant de 29 et 30 par période de 15 minutes. Puis, qu'est-ce qui est important de se rappeler, c'est que si jamais ça prenait plus que 15 minutes, donc, écoutez, si on regarde 15 minutes et une seconde, là, à ce moment-là, on a le droit de facturer deux unités.
Ça va être la même chose pour la plateforme e-consult ou Saphir aussi, ça fonctionnerait. Donc, à ce moment-là, vous pouvez facturer deux unités si ça excède 15 minutes. Puis, à ce moment-là, vous avez besoin également du nom du médecin spécialiste qui va répondre à votre demande.
Il y a des nouveautés aussi, Christina, pour les médecins enseignants. Bon, je m'explique. C'est quoi les médecins enseignants? Par exemple, on a beaucoup de médecins urgentologues qui vont faire des simulations, qui vont donner des stages, qui vont donner des formations à des résidents en médecine familiale. Puis auparavant, c'était un petit peu compliqué de réussir à se faire payer pour ces enseignements-là, ces simulations. Désormais, qu'est-ce qui est nouveau? Il y a des codes de facturation qui existent et les médecins vont se faire payer comme étant des activités académiques. Élise, par heure, une activité académique, ça donne?
En fait, Nicolas, c'est vraiment plus intéressant le mode mix. On parle de 116 $ de l'heure en incluant les activités académiques versus 99,48 $ de l'heure à tarif horaire.
OK, donc il faut vraiment être au mode mix.
Oui.
Donc là, ça permet, par exemple, que, Christina, si moi je suis urgentologue, exemple, à Drummondville, à l'urgence de Drummondville, je reçois des résidents qui arrivent du GMFU de Drummondville. À ce moment-là, donc, le chef du GMFU va me faire un avis de service, donc au GMFU, et à ce moment-là, il va choisir le mode mix et ça va me permettre d'être payé 116 $ de l'heure pour non seulement la dispensation du cours ou la dispensation de l'atelier, mais aussi la préparation, parce que les médecins sont tous conscients que si je donne une présentation de 3 heures ou j'anime un atelier de 3 heures avec les résidents, ben ça m'a peut-être pris plus de temps à le préparer à l'avance. Donc, ce 116 $ de l'heure-là devient très intéressant pour les médecins urgentologues. Il y a 3 codes de facturation qui sont utilisables si on est dans un GMFU, si on est dans un centre de simulation universitaire ou si on est dans un autre milieu désigné à cette fin par une faculté de médecine. Ça veut dire que c'est bon n'importe où. Ça prend un avis de service. Puis si on regarde, là, j'avais un cas cette semaine qui est arrivé, les résidents arrivent de 4 GMFU différents. Donc, autrement dit, ça leur demandait à ce moment-là d'avoir 4 avis de service, donc 1 par GMFU. Celui qui signe, c'est vraiment le chef du GMFU. Donc, dans le cas qu'on avait, 4 GMFU différents, donc j'ai eu besoin de 4 signatures de 4 chefs de GMFU différents. Il faut toujours se rappeler que le formulaire n'a pas besoin d'être signé par le directeur des services professionnels de l'hôpital. Exemple, je suis au CHUM, c'est pas le DSP du CHUM qui va signer le formulaire. Ça va plutôt être chacun des chefs des GMFU qui vont m'envoyer des étudiants. Donc, si j'ai 3 GMFU différents, donc je vais avoir un avis de service pour chacun des GMFU signé par chacun des chefs du GMFU.
Alors, Christina, une nouveauté, en fait, là, qu'on attendait depuis longtemps au niveau de l'ajout d'un code de vulnérabilité. Donc, dorénavant, lorsque vous supervisez un médecin résident, vous pouvez ajouter ou modifier un code de vulnérabilité d'un patient inscrit, qui est inscrit, en fait, auprès d'un autre médecin. Donc, ça, c'est rétroactif au 1er janvier 2023.
Avant, ça créait bien les problèmes dans un contexte de GMFU, parce qu'on sait que pour modifier ou ajouter une condition de vulnérabilité, normalement, c'est uniquement fait par le médecin de famille. Mais dans un contexte de GMFU, le résident, ce matin, il voit des patients de tout le monde. Donc là, maintenant, la nouveauté. Donc moi, aujourd'hui, je vois un nouveau patient, il y a une condition de vulnérabilité, ou je vois un ancien patient qui on ajoute une condition de vulnérabilité. Bien, à ce moment-là, je peux tout simplement tout faire maintenant, peu importe c'est qui le médecin de famille dans le GMFU. Donc ça, c'est une belle amélioration. Ça va venir aussi couper beaucoup de problèmes rétroactifs que les médecins vivaient en GMFU.
Nicolas, j'ai vu aussi qu'il y avait des nouveautés par rapport au transfert de patients en bloc.
Oui, il y en a. C'est qu'on a tout simplement prévu de nouvelles possibilités. Donc, exemple, un avis de retraite ou un décès, une radiation provisoire de plus de 24 mois ou une radiation permanente, un abandon de pratique, un avis de non-participation ou de désengagement auprès de la RAMQ a été transmis. Supposons que, bon, mais Christina, moi, j'ai été le médecin qui s'en va vers la retraite. On s'entend que je suis pas mal plus vieux que toi, donc je vais prendre ma retraite avant toi. Donc là, je t'ai déjà transféré un bloc de 100 patients ou de 250 patients. Bien, un transfert subséquent de toi et moi, ça peut être un bloc de moins de 50 patients. Donc ça, c'est nouveau encore une fois, c'est une nouveauté au transfert en bloc. 1000 patients par année peuvent être transférés à un médecin. C'est toutes des nouveautés qui viennent réellement améliorer et simplifier les situations pour ne pas que ma clientèle, si je me réoriente, si je déménage, si je prends ma retraite, que ma clientèle redevienne orpheline. Je pense qu'on pourrait parler un peu de la lettre d'entente 388, Élise.
Oui, tu vois, une belle lettre d'entente encore une fois. En fait, on départage ici les patients qui sont en contexte de centre d'hébergement sur une longue durée versus le centre de réadaptation. Donc, il y a vraiment un nouveau code de forfait, en fait, qui est en vigueur depuis le 5 mars 2023. Quand on parle des patients, en fait, là, en centre de réadaptation, c'est dans une des unités suivantes, très important. Quand on parle de l'unité de soins post-aigus, le SPA, l'unité transitoire de réadaptation fonctionnelle, l'UTRF, et la dernière, l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive. Donc, il faut que ces patients-là spécifiquement se retrouvent dans l'une des unités que je viens de nommer. À ce moment-là, le code de forfait, en fait, va s'instaurer, donc le 42770.
Puis qu'est-ce que ça donne, Élise, le forfait?
Oui, ça donne en fait un montant de 72,45 qui est facturé à chaque semaine que le médecin travaille dans le centre de réadaptation.
Donc, autrement dit, c'est une prime que je vais avoir à chaque semaine, une seule fois?
Non, en fait, tout dépendant du nombre de forfaits octroyés par le chef de département.
OK, donc mon chef pourrait dire, bon, ben Nicolas, t'en as pris assez, je te donne 5 forfaits, donc j'aurai une prime de 72,45 fois 5 par semaine.
Exact.
Puis ça, c'est en... Est-ce que ça exclut pas le reste de ma rémunération, là?
Non, absolument pas. Donc, ça va s'ajouter, un peu comme des forfaits de chefferie, si on veut.
OK, c'est vraiment une prime, là. C'est nouveau, là.
Oui.
Puis ça prend-tu un avis de service? Qu'est-ce que ça prend?
Donc, c'est simplement que votre établissement doit être désigné par la fameuse lettre d'entente en question. Et puis, vous devez avoir des forfaits, en fait, qui vous ont été octroyés par le chef
puis
de
mes
département.
Mes patients sont dans les trois milieux que tu as mentionnés précédemment.
Exactement.
Wow! Est-ce que c'est rétroactif?
Oui, au 5 mars 2023.
Donc, autrement dit, il y a un travail à faire du côté de chaque médecin qui travaille dans ces milieux-là pour que rétroactivement, au 5 mars 2023, je me fasse accorder un nombre de forfaits.
Oui, ce travail au niveau de la répartition aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez la d'entente 327 aussi qui continue de s'appliquer, mais pour les patients spécifiquement en CHSLD. Quand on parle de la d'entente 327, on parle de 103 et 5 sous du forfait qui est versé trimestriellement, alors que le forfait de la d'entente 388 de 72 et 45, c'est à chaque fois que vous travaillez dans ce service-là et que vous voyez des patients dans les unités qu'on a mentionnées.
OK. Donc, autrement dit, là, si moi, je suis un de tes clients, Élise, là, il faut que je parle avec mon chef, que j'obtienne mon nombre de forfaits de la lettre d'entente 327 que j'ai probablement déjà, que j'aille mon nombre de forfaits de la lettre d'entente 388 rétroactivement au 5 mars, puis après ça, que je t'appelle en disant, ben voici qu'est-ce que j'ai droit, puis s'il vous plaît, facture-moi-les rétroactivement.
Et voilà, exactement. Il faut distinguer les deux dorénavant.
Puis ça, il y a beaucoup d'argent, là, de la manière que tu parles, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, là, autrement dit, si vous travaillez dans ces milieux-là, faut pas oublier de faire cet exercice-là rapidement parce qu'on a 90 jours probablement?
Oui, exactement, à partir du 4 décembre 2023.
OK, donc autrement dit, si c'est pas facturé au 4 mars 2024, je viens de perdre cet argent-là.
Absolument.
OK, donc autrement dit, si vous entendez le podcast, dépêchez-vous d'appeler tout de suite votre agence de facturation, votre conseillère, pour vous assurer qu'on le facture le plus rapidement possible.
C'est beaucoup d'informations pertinentes, mais on conseille toujours à nos médecins d'aller tout de même lire l'amendement et la lettre d'entente là, pour être certaine que toutes les informations ont bien été comprises.
Je dirais, Christina, le mot de la fin, l'entente, l'amendement 394, la lettre d'entente 388, c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette entente-là, dans cet amendement-là. On a essayé de vous faire un résumé le plus concis, le plus précis possible, mais bien entendu, il faut lire vos ententes. On le sait, on en a déjà parlé. Parlez avec votre conseillère en facturation. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés et il y a beaucoup de choses qui sont rétroactives, donc qui vont avoir un impact majeur sur vos revenus.
Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Élise. Toujours un plaisir.
C'est un plaisir partagé, Christina.
Pareillement
pour
moi.
À la prochaine.
À bientôt.